Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à commencer et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, accompagnant des élèves en situation de handicap et assistant d'éducation en colère à Rennes, un reportage à la maison associative de la santé avant une journée porte ouverte, il y aura de la musique dont une nouveauté, interview avec la basse-cour et la cloche pour annoncer les journées de l'exil, l'épisode 2 de la rencontre avec Clément Rivière, sociologue sur la place des enfants en ville et puis une recommandation, c'est de participer à la journée mondiale du don de sang. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera. Et vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour, la mobilisation des AESH accompagnant des élèves en situation de handicap et AED, assistants d'éducation. Ces derniers, ils mènent des missions de surveillance et d'encadrement dans les établissements scolaires. Deux professions réunies devant le rectorat de Rennes ce mardi 13 juin en fin de matinée, avec le soutien de plusieurs organisations syndicales. On les cite CGT, FO, FSU, UNSA et Sud Solidaire. Un mot d'ordre, non à la précarité qui touche ces professions et oui pour une réelle reconnaissance de ces métiers, alors que le gouvernement, d'après le communiqué de l'intersyndicale, a engagé une grande concertation autour de l'école inclusive, mais sans inviter les AESH. La bonne nouvelle, c'est quand même que suite à plusieurs mobilisations, la profession a obtenu la CDIsation au bout de 3 ans d'ancienneté, ce sera effectif en septembre, mais la mesure est jugée insuffisante. En effet, les 3 premiers échelons de la grille salariale, qui correspondent aux 9 premières années, condamnent ces professionnels à une rémunération au SMIC. Pour les AESH et les AED mobilisés, la création d'un nouvel emploi accompagnant à la réussite éducative est également prise comme du mépris. Leurs missions diffèrent et ne peuvent être fondues sous un même et nouveau sigle. En parallèle, dans l'Académie de Rennes, à noter que 10 postes d'AED vont être supprimés à la rentrée alors que les vies scolaires du département seraient sous pression. Bref, c'est l'incompréhension. Après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage. Reportage sous forme de visite guidée entre les murs de la maison associative de la santé à Rennes, une structure implantée dans le quartier Villejean qui est en fait une union d'associations et d'acteurs dans le champ de la santé publique. Cette masse, elle ouvre ses portes vendredi 16 juin de 10h à 17h pour des temps de rencontres, d'ateliers mais aussi de prévention. Plus d'infos en ligne sur le site maisondelasante.com.
Donc là, voici l'accueil. Oui. Vous retrouvez la documentation de la majorité des associations qui sont présentes ici, et également à l'accueil, on peut vous renseigner. Donc, quand vous recherchez une association, une structure, même si l'association n'est pas adhérente, très souvent ce sont des gens qui soit sont malades, soit ont quelqu'un qui a une pathologie et ils recherchent une association pour avoir des informations, pour ne pas être seul tout simplement. Bonjour, donc Marie-Jo Ménager-Joulin, je suis la présidente de la Maison Associative de la Santé depuis 2 ans. Et donc je suis là, je représente mon association qui est Inflameuil, puisque ce sont des associations qui adhèrent et non pas des personnes. Inflameuil, c'est une association donc, qui regroupe des personnes qui ont des problèmes d'uvéite ou inflammation de l'œil. On est à 150 personnes au niveau national.
Et donc Mathilde est en charge de mission à la Maison Associative de la Santé et donc aussi en charge de tout ce qui va être autour de la dynamique associative et du lien avec les associations.
On commence par dire où on se trouve et quelle est l'histoire de ce lieu.
Donc la Maison Associative de la Santé est donc rue de Normandie, donc à la Villejean, depuis 4 ans. Auparavant, elle était dans Rennes-Sud et donc elle existe depuis 1986, elle a été créée à l'initiative d'Edmond Hervé, qui souhaitait donc regrouper toutes les associations de santé dans un même lieu pour que les gens puissent retrouver toutes les informations nécessaires quand ils recherchaient une association sur la santé.
Un lieu unique en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup?
Non, donc la Maison Associative de la Santé, c'est la première structure. Il y a une autre structure qui s'est créée à La Rochelle depuis, qui a des versions un petit peu différentes, mais sinon ce sont les 2 structures en France.
On présente les équipes qui font vivre le lieu. Il y a évidemment des bénévoles, puisqu'on parle d'une structure associative, aussi des équipes salariées.
Donc il y a effectivement 4 salariés, sinon donc 60, un peu plus de 60 associations ou structures, et donc avec un conseil d'administration. Chaque association donc, a ses bénévoles et donc, participe plus ou moins à la vie de la maison associative de la santé. Bon, certains viennent pour des réunions, pour rencontrer des gens. Certains donc, s'investissent, par exemple, au sein du conseil d'administration pour certaines animations, pour certaines activités. Mais dire le nombre de bénévoles, c'est un petit peu compliqué.
Peut-être vous demander, vous avez sans doute un regard là-dessus, avec plus de 60 structures qui font partie de cette maison associative de la santé. Est-ce qu'il y a eu un effet de la crise sanitaire sur l'engagement bénévole? Ça, vous l'avez ressenti ici?
Oui.
On l'a ressenti ici, notamment en termes d'activité. C'est vrai que c'est... Et puis même les associations nous ont fait un retour. C'est plus compliqué d'avoir des adhérents dans leurs propres associations, d'avoir des bénévoles qui sont là et qui sont actifs. Voilà, nous aussi, au niveau de la maison associative de la santé, quand on met en place des choses, on voit que c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a toujours cet engagement de la part des bénévoles, mais ça peut être plus compliqué.
Donc là, vous avez une salle de réunion donc, qui est réservée pour les associations et pour d'autres structures, si elles sont disponibles, qui sont mises à disposition.
Là, par exemple, aujourd'hui, c'est une formation autour de la crise suicidaire.
Oui.
Avec l'Agence régionale de santé.
L'ARS est un de nos financeurs. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de formations qui sont réalisées également à la maison associative de la santé.
63 associations membres de la maison associative de la santé. Est-ce qu'on peut parler un peu des champs de la santé qui sont représentés?
Alors, on a pas mal d'associations sur différentes thématiques, ça c'est sûr. On va des associations sur le cardiovasculaire, sur les maladies rares, sur les maladies digestives, sur le don d'organes. On va avoir sur le deuil aussi, sur la santé mentale notamment, et en fait qui est là depuis pas mal de temps déjà, les associations de santé mentale, mais avec plus de visibilité dernièrement. On va avoir tout ce qui va être déficience visuelle, déficience auditive. En fait, vraiment, on va toucher tous les pans de la santé et du bien-être. Et on espère notamment développer ce côté-là au niveau des associations et aller vers encore plus de thématiques. Oui, bon, on a des nouvelles associations qui ont adhéré donc, cette année, notamment Guanag et ABA, qui sont deux associations liées à l'autisme. Donc un plutôt pour les adultes, c'est un foyer d'accueil, et ABA qui va plutôt être justement pour toute population et notamment les jeunes. Nous avons aussi l'association Naître et Vivre qui fait partie du collectif Vivre son deuil Bretagne, qui est une association liée au deuil périnatal, et l'association Dialogue et Solidarité aussi en lien avec le deuil qui est liée au CIDFF. Le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui aussi accompagne les personnes, notamment sur des groupes de parole. Parce qu'il faut savoir que l'AMAS donc, a des salles de disponibles pour accueillir des groupes de parole, des actions ponctuelles, des réunions, voilà.
Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qu'on retrouve à l'échelle nationale, qui ont des délégations départementales. Est-ce qu'il y a quand même des spécificités là, sur ces champs abordés propres à la ville de Rennes ou à la région Bretagne?
Totalement. Sur la prévention des risques, non?
La prévention, totalement. Au niveau breton, on va avoir un peu plus de directives au niveau de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui oriente notamment sur la prévention du suicide. Avec donc, notre collègue Alicia Gendre, qui est plus sur la santé mentale et qui va mettre en place des formations à destination des professionnels sur le champ de la prévention de suicide, de l'accompagnement du deuil après suicide. On est aussi sur le champ de l'alcool et des addictions, avec pas mal d'associations qui agissent en ce sens. Voilà, en termes d'orientation, c'est vraiment les deux principales. Et c'est d'aller aussi, notamment pour la ville de Rennes, vers les publics qui en ont le plus besoin, les plus précaires. Voilà. Et l'implantation au niveau de Ville Jean Kennedy, c'est pour être au plus près des personnes et pouvoir agir dans le quartier.
Quelles sont les missions de la maison associative de la santé? On ne vient pas là pour voir un professionnel de santé, on est plus là pour bénéficier d'un accompagnement à côté du soin et puis de bénéficier aussi de communication sur tout ce qui est fait. On peut l'expliquer comme ça?
Totalement. En fait, une association qui va adhérer à la maison associative de la santé, elle adhère pour avoir notamment cette orientation du public vers son association, potentiellement. Donc nous, on communique via nos réseaux sociaux, notamment Instagram, LinkedIn, Facebook, et on va communiquer via notre newsletter. Donc tous les deux mois, on sort une newsletter avec toutes les informations de toutes les associations. Et voilà, et on envoie tout notre listing. Il va y avoir aussi tout le soutien méthodologique qu'elle peut demander. Nous, par exemple, en tant qu'équipe, on va lui apporter, si elle fait des recherches sur une demande de subvention, si elle souhaite mettre en place une action, on est là pour aider. Il va y avoir aussi tout le côté interassociatif, mettre en lien les associations les unes les autres, créer des actions ensemble.
La maison associative de la santé, elle a bientôt 40 ans, dans 3 ans. Sur les temps forts peut-être de l'année, je pense aux semaines d'information sur la santé mentale qui sont portées par un collectif dédié, mais avec un relais au niveau de la communication par la maison associative de la santé. Est-ce que vous voyez d'autres temps forts qui sont importants pour votre structure ?
On a de belles actions sur l'année, notamment les actions interassociatives. Là, par exemple, en 2023, on met en place les cafés philo avec Marie David, qui est donc philosophe et animatrice d'atelier. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire intervenir les associations sur ce type d'atelier pour qu'elles se connaissent et qu'elles prennent un temps aussi d'interconnaissance. On va avoir des actions autour du deuil aussi, avec le collectif Vivre son deuil Bretagne. Et on a une grosse action qui est le programme d'éducation thérapeutique du patient, qui est vraiment important pour nous, avec donc des patients experts, des professionnels, tous les deux formés à l'éducation thérapeutique aux 40 heures, et donc qui accompagnent des patients ayant toute maladie chronique confondue sur un cycle de rencontres et d'ateliers. Alors ça a débuté en 2017, il me semble, j'étais pas encore là, et on relance là en 2023-2024 un nouveau programme à destination de toute maladie chronique confondue toujours et donc axée sur les aspects psychosociaux.
En fait, l'ensemble de l'immeuble, c'est l'espace santé Olivier Saboureau, c'est ça ?
Exact.
Qui est quand même dédié à la santé.
Qui est dédié à la santé, oui. En fait, à l'étage, vous avez France Asso Santé et vous avez Avenir Santé Villejean et autrement des professionnels de la santé, kinés, podologues, orthoptie, psychomotricité.
On arrive aux portes ouvertes qui sont organisées vendredi 16 juin à la maison associative de la santé, donc dans le quartier Villejean. Le point de départ, c'est que vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être un lieu qui n'était pas encore bien identifié par les habitants du quartier, plus globalement par les Rennais qui n'osent peut-être pas venir en fait ici alors que les portes sont ouvertes.
Oui, complètement, c'est vrai que là... Le lieu a besoin d'être connu. Nous sommes là depuis 4 ans, donc effectivement, ça ne fait pas très longtemps, et en même temps, ça fait déjà un certain temps. Et donc, en fait, c'est aller vers la population pour qu'ils sachent qu'on existe, pour qu'ils osent venir et nous rencontrer, et donc chercher des informations dont ils pourraient avoir besoin. Et c'est aussi donc, pour être repérés sur ce quartier, et donc, qui est quand même assez riche entre les étudiants, la population. Enfin, il y a quand même une population... importante.
Et puis on est dans un quartier prioritaire de la ville où il y a des populations qui ont des difficultés d'accès aux soins.
Également, bien sûr. Donc c'est aussi bien qu'elles sachent qu'elles peuvent trouver de l'information à la maison associative de la santé.
Le programme, alors toute la journée, il y aura des temps de sensibilisation sur le sujet de l'alcool et de la déficience visuelle et puis un peu des temps forts sous forme d'ateliers. Je vous laisse les présenter.
Alors, on aura l'atelier philo qui va vraiment permettre aux gens de se rencontrer juste, de prendre du temps ensemble sur la thématique justement de l'engagement. Comment est-ce qu'on s'engage? Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Pour quelles raisons on décide de s'engager en soi? On va avoir un atelier sur mon espace santé qui est la présentation de l'espace santé numérique de l'assurance maladie. Et donc ça qui est présenté par France Asso Santé. Et qui va pouvoir donner des clés, parce que c'est vrai que, justement, pas mal de personnes du quartier ne sont pas au courant qu'elles peuvent mettre tous leurs documents et avoir un accès à l'information sur cet espace santé. On va avoir aussi un atelier mémoire par l'association Bistro Mémoire Rennais, Global Cité, qui intervient sur un escape brain, donc qui est un peu comme l'escape game, mais version à chercher des indices pour faire travailler la mémoire.
Et... Juste pour info, le Bistro Mémoire, c'est une association qui organise des choses, notamment pour les patients atteints d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives ici à Rennes.
Et qui sont dans nos locaux, d'ailleurs. Et on aura l'atelier nutrition par la maison de la nutrition et du diabète sur justement comment prendre du plaisir en mangeant et en faisant attention, notamment sur l'heure du goûter, la fameuse collation.
Donc ces ateliers, c'est organisé de 10h30 jusqu'à 16h30 ici à la maison associative de la santé. Est-ce que j'ai oublié des choses ?
C'est toujours possible de s'inscrire, tout à fait.
Pour s'inscrire, ça se passe par email ou par téléphone ou sur place le jour J s'il y a des places restantes.
Donc là, il y a donc une autre salle de réunion, ici, une petite salle également qui est à la disposition des associations. Le petit bureau où les gens peuvent aussi se rencontrer si nécessaire. Et les deux bureaux des salariés. Et vous avez le bistrot mémoire qui est à côté.
Ah oui, ils sont ici, le bistrot.
Dreams blooming in my
Fears et son Big Dream, une nouveauté musicale qui a été repérée par notre programmateur Yann et à retrouver sur l'album du même nom qui est sorti le 7 avril chez les Disques en Chantier, après une sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges, ça c'était en 2020, et puis un EP sorti au printemps 2021. Et bien ça y est, c'est l'heure du premier album pour Tristan Gouret, un jeune français qui nous emmène en voyage musical entre indie pop et folk. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur canalb.fr. On passe à l'interview du jour. Éléonore Havas et Manon Grimaud, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Je vous présente Éléonore, vous êtes coordinatrice de la Basse-Cour, un lieu agriculturel installé à la Prévalet à Rennes. Manon, vous faites partie de l'association La Cloche, vous êtes également coordinatrice La Cloche pour la région Bretagne, une association qui vient en aide aux personnes en situation de précarité. On va y revenir et ensemble, eh bien, vous organisez des journées de l'exil. Ça se passe vendredi 16 et samedi 17 juin ici à Rennes. C'est en fait la deuxième édition. On peut redire à quoi ça avait ressemblé l'année dernière, le nom était différent, le contexte aussi un petit peu, Manon ?
Alors l'année dernière, ça s'appelait la Journée mondiale des réfugiés. C'était aussi co-organisé avec le Refugees Food Festival. C'était également à la Basse-Cour et c'était sur une journée, un dimanche, il me semble. Et c'était également des ateliers qui étaient organisés tout au long de l'après-midi. Voilà.
Donc là, vous voyez plus grand puisque ça se passe sur deux jours. Peut-être dire comment vous vous êtes rencontrés à La Cloche, à la Basse-Cour, et sachant qu'il y a une troisième association qui fait partie du trio organisateur qui s'appelle Codico. Comment est-ce que le lien s'est fait avec ce projet-là, là, Éléonore ?
Alors, il me semble que c'était... Codico et des personnes, notamment Anna qui travaille à Codico, qui était bénévole à la Basse-Cour et voilà, qu'on a rencontré dans ce cadre-là. Puis Codico, au niveau national, participait à la Journée mondiale des réfugiés l'année dernière. Et voyant que nous, on accueillait le Refugee Food Festival à la Basse-Cour, on s'est dit bah, pourquoi pas. Et ensuite, Benenova et La Cloche aussi sont rentrés dans l'organisation l'année dernière et sont encore co-organisateurs cette année.
Je ne connaissais pas Codico, c'est une association arrivée à Rennes assez récemment, en 2021. Comment on peut présenter ses actions en quelques phrases aux auditeurs, Manon ?
Alors, Codico, ils font le lien entre les entreprises et les personnes réfugiées. Ils ont des promotions de 6 mois. Donc, je crois qu'ils ont entre 50 et 60 binômes. Et le but, en fait, c'est de faire des ateliers pour faciliter l'intégration dans le monde du travail des personnes réfugiées.
Ensemble, vous organisez donc les journées de l'exil, deuxième édition. Ça se passe vendredi 16 et samedi 17 juin, juste avant la Journée mondiale des réfugiés qui a lieu le 20 juin. En tout, vous êtes plus nombreux que ça. Vous avez réussi à réunir une quinzaine d'associations. Il y en a beaucoup qui sont déjà passées sur les ondes de Canal B. Ça représente quand même un écosystème assez riche qui intervient auprès des personnes exilées. Pas que d'ailleurs, ça peut aussi être auprès des personnes en situation de précarité.
Ouais, alors le lien du coup s'est fait cette année avec France Bénévolat qui avait aussi envie de coordonner une journée autour de ces questions d'exil et qui était elle-même avec un consortium d'assaut avec les CADA, il y a SOS Méditerranée et d'autres assauts. Donc on a en tout une quinzaine cette année à s'être regroupés pour se fédérer en se disant bah, on va faire ensemble et à la Basse-Cour.
Toutes ces structures, surtout des associations, elles accompagnent les personnes exilées dans le champ du logement, de l'insertion professionnelle, mais aussi de l'apprentissage linguistique, si on y regarde de plus près. C'est le moment où on redit un mot sur le travail de La Cloche, Manon, dont vous êtes la coordinatrice pour la région Bretagne. Vous travaillez avec ce public, mais pas uniquement.
Non. Nous, en fait, on lutte contre la grande exclusion, donc c'est très très large. Ça concerne beaucoup de profils très différents. Les personnes en situation de précarité financière, bien sûr, mais aussi de précarité sociale. Donc on a autant des personnes qui vont être en situation de rue ou des personnes qui sont logées, mais qui ont besoin de liens sociaux, comme tout le monde, en fait. On a tous besoin de liens sociaux.
Depuis votre arrivée en 2020, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment a évolué le projet? Une de vos grandes missions, c'est de rendre identifiables des lieux qui sont un peu ressources chez des commerces partenaires à Rennes et ailleurs. Oui.
Alors en fait, on a plusieurs programmes, notamment le programme du Carillon, qui vise en fait à recréer du lien, encore une fois, entre les personnes de la rue ou en situation de précarité et les commerçants de leur quartier. Donc le principe est simple, les commerçants mettent à disposition des services ou des produits du quotidien de manière totalement gratuite.
Par exemple, pour recharger son téléphone.
Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être également des cafés ou des plats qui seraient prépayés par les clients et proposés gratuitement aux personnes. Donc nous, on fait vraiment l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut aller distribuer des bons pour que les personnes bénéficient de ces produits et on distribue des listes répertoriant en fait tous ces commerçants. Et après, on a toutes nos activités sur les activités de faire ensemble, où là encore, on essaye vraiment de mélanger des personnes qui, à la base, ont un peu moins de chances de se rencontrer. Donc notamment nos ateliers cuisine qu'on organise, par exemple, tous les 15 jours à l'Hôtel Pasteur, et où on a des hôtes de l'Hôtel Pasteur à chaque fois qui déjeunent avec nous. Et c'est beaucoup de partage et c'est très intéressant.
Et juste un mot sur votre implantation, on parle de la cloche Bretagne. Il y a beaucoup d'activités qui se déroulent à Rennes, où vous avez réussi à étendre un peu votre périmètre.
Alors nous, notre antenne, elle est à Rennes, implantée à Rennes, mais on a une franchise sociale à Brest. Et le but, c'est de développer également dans la région Bretagne des franchises sociales. En fait, une franchise sociale, c'est une association qui est déjà existante sur un territoire et qui va porter notre réseau de commerçants, donc le Carillon. Nous, on va donner à cette association tous les outils nécessaires. On va former, on va donner les stickers, etc. pour que ce réseau de commerçants s'implante le plus possible. Le but, c'est vraiment pas d'apposer notre nom, mais c'est de faire en sorte que ce système s'essaime partout. Sans qu'on ait forcément à implanter une antenne avec des salariés et tout ce que ça implique.
On arrive aux journées de l'exil, ça se passe vendredi 16 et samedi 17 juin. Rendez-vous à la basse-cour dans le quartier de la Prévalet à Rennes pour 2 jours d'animation très variée. On redit peut-être à quoi ressemble le lieu, Éléonore, qui se transforme en guinguette à la belle saison. Là, en ce moment, c'est l'effervescence.
Oui, donc on est dans une ancienne ferme, la basse-cour, la ferme du château de la Prévalet qui n'existe plus aujourd'hui et qui est donc un endroit, une bâtisse du 19e siècle et qui a été mise à disposition par la ville à notre asso. Et donc dans ce lieu, qu'on appelle un peu tiers-lieu, il se passe plein de choses et plein d'activités qui se côtoient. Et donc on est au cœur de la Prévalet, donc un espace vert naturel aux portes de la ville. Et donc l'association développe beaucoup d'animations.
Surtout en fin de semaine.
Voilà, et donc notamment on a cette guinguette qui est ouverte du mercredi au dimanche et dans laquelle il y a une programmation qui est portée par des initiatives, des associations et des citoyens, citoyennes. Qui recoupe en fait beaucoup d'animations qu'on porte sur le quartier de Clonay et l'ouest de Rennes, notamment autour de l'alimentation durable.
Pour donner un peu une idée, il faut imaginer plein de tables, et puis on est presque à la campagne, à 2 pas, il y a le jardin des 1000 pas, on peut venir avec ses enfants, c'est un lieu qui est quand même assez grand. D'abord, durant 2 jours, le public va pouvoir y découvrir, dans cette basse-cour, une exposition d'une association bien connue au niveau national. Il se trouve qu'elle a aussi une antenne installée en Bretagne et ici à Rennes, c'est SOS Méditerranée. À quoi elle ressemble, cette exposition?
Alors c'est une expo qui s'appelle Sauver, Protéger, Témoigner, puisque c'est le rôle de SOS Méditerranée qui intervient auprès des personnes migrantes en difficulté d'exil. Et donc cette expo, ça va être un peu une surprise. On va avoir, elle est installée uniquement pour ces 2 jours-là, et donc ça permet de mettre en image
tout le travail
qui peut être fait par l'association. Donc on va avoir un peu de mer dans notre cadre aussi, j'imagine, dans notre cadre plutôt
rustique,
voilà.
Sur la journée du vendredi, les animations, elles commenceront à 15h avec des ateliers et des jeux jusqu'en début de soirée. Là, c'est plutôt France Bénévolat qui pilote cette partie-là des 2 jours.
Oui, voilà, donc on va être plutôt sur la fin d'après-midi, même s'il y aura effectivement dès 15h des jeux en bois. On aura un atelier autour de la terre, de l'enduit terre, et donc pour inviter les gens à mettre les mains dans la terre pour manipuler, parce que voilà, il y avait un petit clin d'œil sur cette question de la terre, qu'on peut manipuler collectivement et créer des choses ensemble avec. Avec Aymeric Georget, donc, qui est artiste plasticien, qu'on avait rencontré d'ailleurs à l'Hôtel Pasteur, qui fait beaucoup de liens. Et puis de 18h à 19h30, des espaces en fait, d'échange. Pour, donc là, c'est vraiment une opportunité en fait, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur la question de la migration, des droits des migrants, donc autour du droit maritime avec SOS Méditerranée, autour de la question des demandes d'asile, du travail des migrants, donc avec les CADA, le MRAP, voilà, des associations qui sont militantes autour de ces questions. Donc ça sera vraiment l'occasion pour les Rennais et Rennaises qui ont envie d'en savoir plus, ou alors de se laisser surprendre et de pouvoir aller à la rencontre de ces témoignages-là. C'est l'idée vraiment de créer du lien entre tout un tas de personnes qui sont plus ou moins concernées et d'avoir des espaces d'échange informels. On n'a pas voulu faire le format table ronde qui peut être un peu frontal et...
Effrayer certains peut-être
Et voilà, et puis changer un petit peu dans la manière d'échanger, en tout cas sur des questions qui sont pourtant sérieuses et importantes.
Vous avez cité les CADA, ce sont les centres d'accueil de demandeurs d'asile. On continue à dérouler le programme de la soirée avec là une projection de films documentaires qui, je crois, a été réalisé dans la région.
Je m'appelle Adam Hussein, je suis soudain.
Ici, le mardi, on fait du théâtre ensemble. Donc c'est un atelier théâtre. Pour aussi parler français. C'est une autre possibilité pour vous de faire aussi du français, mais aussi de rencontrer d'autres personnes, puisque peut-être que vous ne vous connaissez pas encore, vous êtes sur des centres sociaux différents.
Extrait du film « Je veux vivre avec vous » de Christelle Méné, un documentaire qui est sorti en 2020 et qui nous emmène à la découverte du théâtre des émotions, un projet des centres sociaux rennais à destination d'un public migrant. Film à voir donc vendredi 16 juin à 19h30 et puis une partie plutôt concert.
Voilà, ça sera un concert sur les répertoires plutôt du Maghreb avec un tribute to Cheb Khaled, donc plutôt musique maghrébine, et donc on poursuivra cette soirée-là avec des musiciens rennais. Le trio constitué s'appelle Train to Maghreb.
Et donc ça, ce sera à vivre jusqu'à 22-23 heures dans la soirée du vendredi. Si on passe à la journée du samedi 17 juin, bien ça se passe toujours à la basse-cour à Rennes. De 15h à 19h, j'ai relevé plein de propositions plutôt manuelles. Il y aura de la broderie, un atelier fresque, un atelier encore enduit comme le vendredi, mais aussi des propositions sonores avec une émission radio qui va être réalisée par La Cloche. Manon, il y aura d'abord un travail de collecte sur place.
Oui, alors en fait, on a à La Cloche une émission radio qui est portée par nos bénévoles qui s'appelle Paroles Vagabondes. Et en fait, le but, c'est vraiment de donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas.
Et pour clôturer ce doux moment, je vous propose une lecture de poème par Myriam et Naram. Donc on va voir une lecture en français et en arabe.
Mahmoud Darwish, poète palestinien. Nous aussi, nous aimons la vie. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Nous dansons entre deux martyrs. Et pour le lilas, entre eux, nous dressons un minaret ou un palmier. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Au verre à soie, nous dérombons un fil pour édifier un ciel qui nous appartienne et enclore cette migration. Et nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin sorte dans les rues. Comme une belle journée.
Et donc nos bénévoles sont très très heureux d'animer cette émission sur le thème de l'exil. Et en fait, ils vont proposer en amont de l'émission un atelier expression avec des images, des mots. Ils vont inviter vraiment les personnes à s'exprimer comme elles le peuvent et comme elles le souhaitent. Et pour ensuite tous enregistrer ensemble une émission sur la thématique de l'exil.
Ça, ce sera de 15h à 17h. Et puis, autre proposition sonore avec une déambulation musicale sur le temps du goûter et puis un atelier de partage linguistique. On termine peut-être sur tout ce qui est proposé en termes d'atelier avec un atelier plutôt cuisine autour des recettes d'exil. On en parle parce que c'est aussi dans le projet tout au long de l'année de la basse-cour sur ces questions d'alimentation.
Oui, alors c'est une matière infinie de créativité, de rencontres, hein, la convivialité, qu'est-ce qu'on mange, comment on le partage, etc. Donc on anime, la basse-cour anime des ateliers de cuisine de rue sur le quartier de Clonay, puis avec des partenaires comme le centre social. Et donc on est amené à pouvoir recueillir des recettes d'habitants, habitantes. Et là, ça sera la recette d'une habitante. Donc ça sera une petite surprise, j'ai pas encore l'info. Et donc l'idée, c'est de pouvoir partager la recette d'une personne du quartier. Et l'année dernière, on avait eu une partage de baklava, donc tout le monde avait mis la main à la pâte pour faire ses baklava.
Mais je crois que j'en ai goûté il n'y a pas longtemps à la basse-cour, au citron et à la menthe, ça me revient là, j'ai un souvenir.
Alors justement, oui, effectivement, on souhaite accueillir aussi une fois par mois des personnes du quartier qui sont plutôt éloignées d'un parcours professionnel ou d'insertion et à qui on donne la possibilité de venir partager une recette, donc ils passent un temps, une journée en cuisine avec notre chef cuisinier. Et là, effectivement, la semaine dernière, il y avait une recette de Zara qui était partagée baklava citron menthe. L'idée, c'est aussi de travailler sur les produits éventuellement du jardin. Bon, là, les citrons, non, mais...
Peut-être un jour, on ne sait pas.
Voilà, la menthe, oui.
Et donc, pour découvrir ces recettes d'exil, ça se passe samedi de 17h30 à 19h à la basse-cour. Et puis, l'événement se terminera avec une partie plutôt culturelle, disons, dès 18h. Plusieurs propositions.
Alors, il y aura une partie musicale, comme vous le disiez, avec le CFMI, donc les étudiants et étudiantes du centre de formation, des musiciens intervenants qui vont proposer donc une déambulation du public à travers trois petits concerts en acoustique dans le jardin de Milpa. Donc, ça va être, je pense, très intéressant, très sympathique. Et on poursuivra avec une jam donc, en fin de soirée et un DJ set pour finir la soirée. Et puis, en parallèle, on invite aussi des personnes à raconter des histoires dans différentes langues. Langue d'origine, et puis des contes du monde. Donc, pour ça, on réserve aussi un petit cadre sympa sous les arbres dans le jardin des Milpa.
Pour tout ce qu'on a évoqué là, est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire ou on vient librement participer, notamment aux ateliers? J'imagine qu'il y a parfois des jauges un peu limitées.
On n'a pas de contrainte de limite de personnes.
Donc
de
on vient.
Voilà.
J'avais une dernière question avant de vous laisser, qui est plutôt en lien, on va dire, avec le climat actuel, un climat qui est quand même assez anxiogène autour du sujet de l'exil, et puis une parole qui est quand même très médiatisée, voire banalisée, de rejet des personnes immigrées. Est-ce que c'est une inquiétude, là, pour les associations qui seront réunies durant 2 jours?
Bah oui, c'est clairement un sujet, je pense, pour toutes les associations, et ça devrait être un sujet d'ailleurs pour tous les citoyens, en fait.
C'est clairement l'idée de ces 2 journées, c'est de faire du lien en fait entre des personnes qui vivent des situations, et souvent on déconnecte nos a priori ou nos jugements de la question humaine, en fait, qui sont des questions pourtant assez simple à résoudre à partir du moment où on rencontre et on communique avec l'autre. Et donc l'idée, c'est pouvoir se rapprocher, échanger et puis aussi débattre et accueillir les points de vue des personnes qui sont inquiètes par ces questions de migration. C'est aussi une possibilité et de pouvoir en échanger et voilà, tout simplement sans prétendre résoudre le problème, mais avoir au moins des espaces de partage sur ce sujet.
Je vous représente Éléonore Havas, coordinatrice de la basse-cour, ce lieu agriculturel à la Prévalais, qui accueille avec la cloche dont vous faites partie, Manon Grimaud, vous en êtes la coordinatrice, qui accueille ces journées de l'exil vendredi 16 et samedi 17 juin. Ça se passe à Rennes, c'est la 2e édition, et c'est donc sur 2 jours plein de propositions d'ateliers, mais aussi de musique à écouter. La participation est libre, on ne l'a pas dit, et pour plus d'informations, il y a toujours vos sites internet, labassecour.org et lacloche.org, et puis aussi une présence sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci. Merci.
Dans mon jardin, mais j'ai pas de jardin. Que devant ma maison, mais j'ai pas de maison.
Passe du France Gall sur Canal B, c'était le morceau La Rose des Vents qu'on retrouve sur l'album FG sorti en 1966. On est en pleine période yéyé et c'est alors le quatrième disque de la chanteuse française qui est décédée il y a maintenant 5 ans. Pour info, ce morceau, je l'ai découvert dans un spectacle de la programmation du festival iRoop, un spectacle qui s'appelle Mousse et qui était proposé ce week-end au festival Robinson du côté de Saint-Grégoire. Vous êtes dans l'arrêt de l'émission d'information locale de Canal B. On passe à l'épisode 2 d'un podcast réalisé en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et la ville de Rennes, réalisé au moment de la venue à Rennes du sociologue lillois Clément Rivière, c'était jeudi 8 juin. Pourquoi les enfants des villes ne jouent-ils plus dans les rues, mais seulement dans des aires de jeux sanctuarisées? Pourquoi ont-ils tant perdu en autonomie ces dernières décennies? L'espace public est-il devenu hostile aux enfants ou les parents surprotecteurs? La ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement ont invité Clément Rivière, sociologue spécialiste de ces questions, pour nous apporter son éclairage dans la continuité des dernières rencontres rennaises de l'éducation qui posaient cette question. La ville à hauteur d'enfant, comment la construire concrètement?
Alors, j'ai décrit une évolution générale, une tendance au retrait des enfants des espaces publics, mais c'est fondamental de penser aussi la différenciation des expériences des enfants. Il y a quelques éléments assez fondamentaux à prendre en compte pour comprendre la différenciation des usages que les enfants font des espaces publics, à commencer par les caractéristiques du logement. Plus le logement est petit ou densément occupé, et plus il est probable que l'enfant passe du temps en dehors de ce logement, donc dans les espaces publics. Alors j'ai la chance que la pandémie, les périodes de confinement rendent tout ça beaucoup plus évident aux yeux de tout le monde. Après, il y a plein d'autres choses qui vont entrer en jeu. Il y a les usages du quartier. Il y a des enfants qui vont passer l'essentiel de leur temps, si ce n'est l'intégralité de leur temps, dans l'espace du quartier. C'est-à-dire qu'ils vont passer tout leur week-end, toutes leurs vacances, toute l'année dans le quartier où ils habitent. Et il y a d'autres enfants, à l'autre extrême du spectre social, qui vont passer très peu de temps dans leur quartier. Alors d'une part parce que leur temps extrascolaire est très occupé par toutes sortes d'activités auxquelles leurs parents les inscrivent, mais aussi au-delà de ça parce que le week-end ils ne sont pas là. Donc c'est très important de penser les enfances en ville et pas l'enfance de manière générique. Un dernier point pour aller dans ce sens-là, c'est la question de la scolarisation. Il y a des enfants qui vont là aussi être scolarisés tout au long de leur scolarité dans leur quartier, près de chez eux, et d'autres enfants qui vont très vite être scolarisés ailleurs, alors, et qui vont de ce fait, d'une part, accéder à des formes de mobilité différentes, qui vont les projeter en dehors du quartier de résidence, parfois très tôt, et par ailleurs, qui vont développer un réseau d'amis plus diffus dans la ville, et donc qui vont se projeter davantage en dehors du quartier pour les anniversaires, pour les pratiques de sociabilité. Donc si vous mettez tout ça ensemble, les conditions de logement, les choix scolaires et les usages des temps de vacances, en fait ça produit un rapport au quartier qui va être très intense dans le cas des enfants les plus ancrés dans leur quartier. Ils vont connaître tout le monde, ils vont avoir une connaissance très fine des espaces proches de leur logement, et puis à l'inverse, des enfants qui vont très peu fréquenter les enfants de leur quartier. Donc c'est deux expériences presque diamétralement opposées. J'ai construit dans mon livre une typologie de manière d'encadrer les usages que les enfants font des espaces publics. J'ai qualifié un premier type d'encadrement protecteur, donc c'est un type d'encadrement qui est plutôt mis en œuvre par des familles de milieux populaires, qui va consister à autoriser des usages de proximité, donc souvent en bas d'immeuble ou dans certains espaces familiers à proximité du logement, avec une surveillance relativement lâche, mais qui est liée au fait que des formes de surveillance informelle s'exercent d'autres adultes ou d'enfants plus âgés ou de personnes qu'on connaît dans le quartier. Un autre type que j'ai qualifié d'encadrement préparateur, donc là j'insiste plutôt sur la façon dont ces parents, qui se caractérisent par un niveau de revenu élevé, vont beaucoup anticiper les étapes futures du développement de l'enfant, donc essayer de lui donner les meilleures armes pour par la suite réussir son parcours scolaire et son insertion professionnelle de la manière la plus performante qui soit. Et le troisième type que je présente dans mon livre, c'est ce que j'ai appelé l'encadrement stratège. Il s'agit là, pour ses parents, d'essayer de combiner à la fois donc, l'idéal de la préparation, mais tout en essayant de l'insérer dans l'espace local, notamment dans les réseaux de sociabilité locale. Là, il s'agit de parents plutôt caractérisés par un niveau d'éducation élevé et qui vont non pas construire les enfants de milieu populaire comme une menace pour leur enfant, mais plutôt essayer de justement les constituer en ressources de protection en essayant de faire en sorte que leurs enfants soient leurs amis, ou en tout cas qu'ils les connaissent un peu. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus intéressante qui se trouve dans mon livre, c'est que le travail que j'ai conduit permet de mieux comprendre pourquoi les femmes adultes et les hommes adultes ont un rapport différent aux espaces publics. Les perceptions de la capacité qu'ont les enfants à se déplacer dans les espaces publics sans adultes sont fortement genrées, avec, pour la phase d'âge 8 ans, 14 ans, un sentiment assez général que les filles sont des utilisatrices plus compétentes des espaces publics au même âge que les garçons, parce qu'elles sont plus obéissantes, elles respectent davantage les consignes, elles prennent moins de risques, elles sont moins imprévisibles, quand les garçons sont jugés au même âge plus tête en l'air, moins attentifs à l'environnement, moins dociles. Mais il y a un mais, il y a un grand mais, qui est que quand la puberté arrive, les parents vont de manière assez brutale et assez radicale se mettre à anticiper tout un ensemble de situations spécifiques pour leurs filles, qui vont du regard au compliment, au fait d'être sifflé, et après pourquoi pas au fait d'être touché, suivi, insulté. Et ça conduit à un ensemble de pratiques spécifiques, donc de contrôle des pratiques urbaines des filles, alors qui vont être relatives à leur maquillage. Ce qu'Irving Goffman, qui est un sociologue interactionniste, a appelé la présentation de soi, donc la manière de s'habiller, la manière de se présenter aux autres dans les espaces publics. Et surtout, la transmission d'une posture un peu de passivité, de discrétion. Les parents vont bien davantage apprendre à leur fille à éviter des situations problématiques qu'à résister, se rebeller ou refuser en fait ces situations.
À travers son projet éducatif local, Rennes a l'ambition d'agir pour que chaque jeune puisse réussir et s'épanouir, quel que soit son quartier et son origine sociale. Tous les ans, la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine proposent des rencontres publiques pour échanger sur l'éducation. Plus d'infos sur métropole.rennes.fr/éducation. Ça y est, on arrive à la fin de l'émission d'information locale. Avant de vous laisser, chaque jour, une recommandation. Et aujourd'hui, mon conseil, c'est de participer à la Journée mondiale des donneurs de sang organisée mercredi 14 juin. L'établissement français du sang en profite pour se faire connaître auprès de nouveaux donneurs avant l'été. Objectif, renforcer les réserves en sang avant la période estivale où les donneurs sont moins présents. À la maison du don de Rennes, dans le quartier Villejean, la journée elle se transforme en semaine avec un événement festif qui a commencé lundi et qui se poursuit jusqu'au samedi 17 juin. On nous promet une collation après le don qui sera fruitée, colorée et gourmande. Ça donne envie. Également sur place, des conseillères bien-être pour découvrir les huiles essentielles, s'offrir un massage des mains ou pourquoi pas profiter d'une séance de réflexologie ou de kinésiologie. En parallèle, un mot sur une collecte solidaire qui est organisée durant tout le mois de juin à la Maison du Don de Rennes en soutien à l'association Bulle Solidaire. Fondée en 2017, cette structure rennaise apporte des produits d'hygiène corporelle à des publics en situation de précarité. Vous avez donc la possibilité de venir déposer vous aussi un produit d'hygiène dans une boîte de collecte avant de faire votre don de sang. Pour prendre rendez-vous pour le don de sang, voire de plasma, ça se passe sur le site dondesang.efs.santé. Il y a aussi une application mobile dédiée et puis un numéro de téléphone, le 02 99 54 42 22. Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B. Le lundi.